En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4:12. Dans la Bible Second Révisée, nous trouvons 19 fois « Réjouissez-vous ». Nous allons lire ces 19 passages, car je pense qu'il est parfois nécessaire de nous souvenir de cette recommandation. Psaume 32:11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 97:12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez son saint nom. Isaïe 65:18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que j'ai créé. Car je crée la Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Isaïe 66:10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle. Vous tous qui menez le deuil sur elle. Jérémie 50:11. Oui, réjouissez-vous, exultez, vous qui avez dépouillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse agile, hennissez comme des chevaux puissants. Joël 2:23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous. Pluie d'automne et pluie de printemps ou premier mois. Matthieu 5:12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Luc 6:23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leurs pères agissent à l'égard des prophètes. Luc 10:20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 15:6. Et de retour dans la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Luc 15:9. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 15:10. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Philippiens 2:18. Vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Philippiens 3:1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. 1 Pierre 4:13. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir avec l'allégresse lors de la révélation de sa gloire. Et enfin, Apocalypse 12:12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Le mot « joie » est employé 227 fois. Le mot « joyeux » 15 fois. Au reste, frères, soyez dans la joie. Tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13:11. Jamais il ne nous est demandé d'être tristes. Au contraire. Matthieu 6:16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et enfin, en Jean 16, 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse te sera changée en joie. Notre tristesse sera changée en joie. Quel beau programme, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, où en sommes-nous avec ces recommandations de l'Écriture? Sommes-nous joyeux d'une joie, d'un bonheur éternel? Le peuple français, dans sa presque majorité, vient de connaître des moments de liesse et de joie, soi-disant extraordinaires. Le premier journal de sport de notre pays, qui avait déjà titré en 1998 après la première Coupe du Monde gagnée par la France, Pour l'éternité, a cette fois titré, pour la victoire de 2018, Un bonheur éternel. Je crains que bien vite ce bonheur éternel annoncé par ce quotidien ne retombe comme un soufflet au fromage, et que notre bon peuple de France, qui a oublié le temps de ce mois de juillet, tous ses soucis présumés avec la victoire des Bleus, ne retombe dans sa morosité et ses revendications bien françaises, et recommence à se dire les plus malheureux du monde. Le bonheur éternel ne peut être terrestre. Ce n'est pas une victoire de nos soldats footballeurs dans une campagne de Russie qui va nous le donner. Non, le bonheur terrestre n'existe pas. Ou du moins, pas comme les médias et nos politiques voudraient nous le faire croire. C'est un bonheur qui se vit de l'intérieur et que nous ne pouvons acquérir qu'en donnant notre vie à celui qui a gagné la plus grande bataille jamais gagnée. La victoire sur le monde et la mort, la victoire sur la mort et le monde des ténèbres. Le bonheur éternel, n'en déplaise aux journalistes et aux politiques de tout poil, ne sera jamais acquis par nos propres forces et nos victoires, quelles qu'elles soient. Le bonheur éternel ne peut être atteint qu'en passant par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Normalement, les enfants de Dieu devraient témoigner de ce bonheur éternel en permanence et le partager. Mais hélas, que de fois nous entendons des chrétiens se lamenter, se plaindre, râler, gémir. Nous sommes, je ne m'exclus pas, trop souvent des oublieux des promesses divines et notre première réaction face aux difficultés de la vie et de faire comme tout un chacun. Et nous devenons des tamalous, faisant triste mine et transmettant la tristesse, donnant une image bien négative de ce bonheur éternel qui pourtant nous est garanti par Christ. N'avons-nous pas tendance à oublier les passages des évangiles de Matthieu 5 et Luc 6? Nous lisons dans Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis au verset 13 à 16, nous lisons, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'en est-il pour nous? Avons-nous mis notre joie sous le boisseau des difficultés de la vie? Quelle image donnons-nous? Sommes-nous lamentation et tristesse, pleurant sur notre sort et donnant envie de changer de trottoir à tous ceux qui nous croisent? Certains parmi vous connaissent peut-être notre ami Joël et aussi la jeune fille chez qui je vais régulièrement, Aurélie, pour passer du temps sur Internet. Joël a la sclérose en plaques. Son univers depuis des années ne se passe que depuis son fauteuil roulant. Il ne sait plus ce que c'est que se tenir debout naturellement. Et pourtant, Joël est une source d'encouragement permanente pour tous ceux qui le côtoient. Il a créé une association d'aide aux personnes invalides. Il rayonne et redonne du courage. Je passe chez lui régulièrement. Il arrive que j'ai quelques soucis. Mais à chaque fois, je repars boosté tant il est une source d'encouragement. Joël est catholique. Nous nous taquinons pratiquement chaque fois que nous sommes ensemble. La dernière fois, nous avons déliré sur les mouches qui nous embêtaient. Celles qui me piquaient étaient certainement des mouches catholiques et celles qui le piquaient étaient des évangéliques. Le délire. Aurélie, elle, est née handicapée moteur et cérébrale. Elle ne maîtrise aucun mouvement et ne parle pas. Elle est pétillante, pleine d'humour. Les temps que je passe avec elle sont aussi des temps d'encouragement. Nous avons créé un site internet qui s'appelle Souris à la vie et maintenant une page Facebook Aurélie Souris à la vie, où elle partage ses aventures, ses joies et peines, mais bien souvent, elle est une belle leçon de vie. Je crois pouvoir dire qu'Aurélie connaît elle aussi le Seigneur à sa façon, mais elle le connaît. Sa maman lui lit chaque jour le feuillet de la bonne semence, et je sais qu'à sa manière, elle parle à Dieu et suis certain que Dieu l'aime. Joël et Aurélie, malgré leur handicap très lourd, ont décidé de vivre. Ont décidé de vivre rue de la reconnaissance, de la joie et de l'espérance. Jean-Louis Gaillard, ancien gauchiste, marxiste, léniniste, a rencontré Dieu en 1971. Il a changé radicalement de vie et devenu un auteur, entre autres, d'histoires pour les enfants et la Bible animée racontée en animation DVD. Créateur de l'association 365 Histoires. Dernièrement, dans une méditation proposée sur le top chrétien, il nous racontait avoir reçu une lettre d'une dame dénommée Marie-Céleste Martin. Bonjour pasteur, j'aime beaucoup écouter vos histoires sur les sites internet. Mais voilà, je suis né de nouveau en 2006 après un divorce, puis une grande dépression. À cette époque, je voulais mourir. Et là, j'ai rencontré une chrétienne. J'ai suivi l'étude biblique, me suis fait baptiser après 6 ans de doute. Je dois vous dire que je suis quelqu'un de cartésien. J'avais espéré que ma vie s'arrangerait en devenant chrétienne. Mais à ce jour, je suis toujours dans la solitude, sans mari, dans un petit appartement avec une petite voiture, sans travail et avec les aides de l'État. J'aime toujours Dieu et sa parole, mais j'ai baissé les bras. L'attente a desséché mes os et ma foi est en berne. J'ai pourtant prié, supplié, attendu, espéré, mais rien que le désert. Je pense que ça vient de moi. Quelque chose qui cloche. Mais quoi, pasteur, merci de me répondre. Marie-Céleste Martin. Chère Marie-Céleste, après avoir lu votre lettre, j'ai un conseil à vous donner. Déménagez. Je vois que Marie-Céleste demeure dans la rue des Plaintes. J'y ai moi-même habité quelque temps, et jamais je ne me suis bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais, et moi-même, j'étais triste et de mauvaise humeur. Mais j'ai déménagé. Je suis allé habiter rue de la Reconnaissance, et depuis lors, je me porte bien. Ma famille aussi. L'air y est pur, l'eau y est pure, la maison est saine et exposée au soleil, les oiseaux chantent et je suis heureux du matin au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déménager vous aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la Reconnaissance, et si vous voulez y venir, je suis sûr que vous y serez transformé. Et je serai moi-même très heureux de vous avoir comme voisine. Vous verrez que, même dans un petit appartement de la rue de la Reconnaissance, vous aurez toujours assez de place pour y accueillir diverses personnes. Votre vieille voiture sera toujours une grande aide pour tous ceux que vous transporterez avec joie. Et vous trouverez rapidement une bonne santé. Salutations en Jésus-Christ, votre serviteur. N'oublions pas de nous rappeler tous les bienfaits de Dieu. Toutes les fois, il nous a retirés de l'impasse. Toutes les fois où, après coup, nous avons pu réaliser qu'il nous avait protégés, gardés. N'oubliez pas les dons qu'il nous a donnés, même si parfois ils nous semblent bien insignifiants par rapport à d'autres frères et sœurs qui sont bien meilleurs que nous. Il n'y a pas de petits dons. Dieu se réjouit lorsque nous mettons nos dons au service des autres. Être aimable et dire bonjour à une personne croisée dans la rue avec un sourire est important. Donner de son temps pour balayer la salle de culte est important. Préparer une tarte pour l'agape est important. Apprendre les chants pour accompagner la louange le dimanche est important. Mettre un bouquet est important, si on le fait avec la joie dans le cœur. Tous ces dons que notre Seigneur a mis dans notre Église sont importants. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Réjouissons-nous de ce qu'il nous a donné d'être et de faire ensemble. Soyons des témoins rayonnants. Affirmons notre confiance à Dieu. Ayons foi en ses promesses. Chers frères et sœurs, réfléchissons bien souvent aux multiples dons que Dieu nous a donnés, multiples dons que Dieu nous fait. Plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas, efforçons-nous de faire le compte de ses bienfaits. Nous ne pourrons que confirmer, Dieu est amour. C'est la conclusion de Jean-Louis Gaillard, c'est aussi la mienne. Merci.